RFI, il est 23h30 à Paris et à Abuja, minuit 30 à Windhoek.
Afrique Soir.
Bien plus en forme que Kylian Mbappé, que les clubs français. Revoilà en petite foulée, jamais essoufflé, Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir à vous, oui, j'ai chaussé mes crampons. Bonsoir. C'est une visite d'État de 3 jours en France aux allures d'événements. Le président nigérian Bola Tinubu est à Paris. La dernière visite d'un président du Nigeria dans l'Hexagone remonte à l'an 2000. 10 morts dans l'attaque de mototaxi en République centrafricaine vers Bria. Des conducteurs mais aussi des passagers. 3 jours de deuil ont été décrétés par les autorités locales. Des Soudanaises hébergées dans des camps de réfugiés au Tchad, dont celui d'Adré, accusent des humanitaires de l'ONU et des forces de sécurité tchadiennes d'avoir commis des abus sexuels. Ce sera le dossier d'Afrique Soir. La découverte d'un important gisement d'or en Côte d'Ivoire, il pourrait produire jusqu'à 11 tonnes par an et c'est une pépite pour l'économie ivoirienne. Le football est la fin de la 5e journée de Ligue des Champions européennes. Tous les résultats avec Eric Mamrutz. Et musique, nous parlerons de la sortie du 6e album de Wizkid, poids lourd de la scène nigériane. C'est la première visite d'État en France pour un président nigérian depuis 24 ans. Bola Tinubu est donc arrivé ce soir à Paris pour une visite d'État de 3 jours centrée sur l'économie, la culture et la sécurité. Lisa Fabian.
C'est le président d'un grand pays africain qui vient en France, selon l'Élysée, qui souligne que la France, elle aussi, compte au Nigeria. Il y a bien sûr le lien particulier qu'entretient Emmanuel Macron avec le géant africain, où il a séjourné et travaillé plusieurs mois au début des années 2000. C'est au Nigeria aussi que le président français a effectué l'une de ses toutes premières visites officielles sur le continent africain en 2018. Ce déplacement avait permis de poser les bases d'une relation toujours en forte croissance sur tous les plans 6 ans plus tard, selon ses conseillers. Le Conseil d'affaires France-Nigeria, qui réunit des chefs d'entreprise des deux pays, joue un rôle clé dans ce rapprochement. Ses membres se rencontreront à Paris ce jeudi avant d'être rejoints par les deux chefs d'État. Plusieurs annonces sont attendues, qu'il s'agisse de partenariats économiques ou de coopération culturelle, sans oublier le volet sécuritaire. La France apporte notamment son appui à la marine et à la police nigériane dans le golfe de Guinée et elle soutient financièrement la force multinationale mixte qui réunit les 4 pays qui luttent contre la menace djihadiste sur le pourtour du lac Tchad.
Au Sénégal, les résultats définitifs des législatives anticipées du 17 novembre ont été proclamés par le Conseil constitutionnel. Aucun recours n'a été déposé. Les résultats confirment donc bien la victoire sans appel du parti au pouvoir, le PASTEF, qui remporte 130 sièges sur 165 à l'Assemblée nationale. Un important gisement d'or découvert à Tanda. Nous sommes dans l'est de la Côte d'Ivoire. C'est le PDG de l'entreprise Endeavour Mining qui a annoncé atteindre bientôt une production de 11 tonnes d'or par an. La découverte de ce gisement aurifère, déjà considéré de classe mondiale, pourrait relancer l'activité minière autour du précieux métal dans ce pays. C'est l'avis de Serge Parfait-Dioman, expert international en industrie pétrolière, énergie et mine.
La Côte d'Ivoire attend beaucoup de retombées positives. La première retombée, évidemment, c'est la visibilité de son activité minière aurifère. Et en deuxième lieu, son attractivité aurifère, parce que plus on découvre des filons d'or, pas des traces d'or comme ailleurs, mais des filons d'or, ça devient comme un produit d'appel qui fait venir d'autres investisseurs. Et en troisième et dernier lieu, ce sont des retombées économiques évidentes pour l'État de Côte d'Ivoire qui va se traduire en développement socio-économique et humain pour les populations et en termes d'employabilité également.
La Côte d'Ivoire où le procès de 5 personnes, dont Damana Picasse, un cadre du PPACI pour atteinte à la sûreté de l'État, a été renvoyé au 4 décembre. La justice soupçonne ce proche collaborateur de Laurent Gbagbo d'être impliqué dans l'attaque contre le camp militaire d'Anyama, survenu en 2021. Le raid avait fait 3 morts et 1 blessé. Ce second report du procès survient à la demande de la défense. Elle affirme que le dossier contient une copie de procès verbal illisible. Nous voulons que la vérité se manifeste, a insisté le procureur de la République. Dans l'actualité, également, la République démocratique du Congo, où le président Tshisekedi se trouve dans la province du Tanganyika pour la conférence annuelle des gouverneurs qui dure 3 jours à Kalemie. Chaque année, ce collectif se retrouve dans une ville différente du pays et ce rendez-vous politique n'a pas échappé au débat qui agite en ce moment la classe politique en RDC, un éventuel changement de la Constitution, un projet porté par le camp au pouvoir à Kinshasa, Pauline Azidi.
Après Kisangani, Lubumbashi, c'est donc à Kalemie que Félix Tshisekedi est allé parler réforme de la Constitution et il a obtenu un soutien de poids, Fifi Mazouka, gouverneur du Lualaba.
S'agissant particulièrement de la question des changements de la Constitution, le collectif de gouverneurs de province soutient à l'unanimité cette démarche car cette Constitution comporte beaucoup de faiblesses et invite la population à soutenir ces changements légitimes et salvateurs.
Des gouverneurs qui ont aussi mis sur la table des revendications politiques, financières, économiques, mais aussi sécuritaires. Un message bien reçu par le chef de l'État qui a promis de répondre rapidement à leurs attentes.
À propos du mémorandum que vous m'avez adressé, que certaines réflexions sont en cours, j'ai bien compris vos revendications, vos desiderata, et des instructions d'ailleurs seront données à ce sujet aux différents acteurs concernés pour apporter des réponses.
Les gouverneurs ont aussi encouragé le président à poursuivre sa mission d'itinérance, sa tournée dans les provinces, pour partager sa vision. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Bangui, 99.8 FM.
En Centrafrique, au moins 10 civils à bord de mototaxis ont été tués dans la nuit de lundi à mardi près de Bria, à 450 km au nord-est de Bangui. Les victimes, des chauffeurs mais aussi des passagers, sont tombés dans une embuscade tendue par des hommes armés assimilés aux éléments de la CPC, la Coalition des Patriotes pour le Changement. Et en signe de protestation, les activités sont paralysées dans la région. À Bangui, Rolf Steve Domialeux.
Selon Thierry Évariste Binginindi, préfet de la Haute-Coteau, ces conducteurs de mototaxi revenaient d'une mission religieuse à Ipi, ville située à 90 km à l'ouest de Bria.
Il y a une réunion religieuse qui s'est déroulée ici à Bria. Ces taxis-motos ont remorqué ceux d'Ipi pour les ramener. Et donc ils sont allés les déposer effectivement à Ipi. C'est au retour que dans le village d'Amagundi, Pécasson de Bria, ils sont tombés dans le champ des malfrats. On a tué les 6 taxis-motos, on a brûlé toutes les motos. Et aussi, il y a 4 passagers qui ont été assassinés aussi. Donc au total, ça fait 10 morts, on nous a rapporté. Les FACA et les forces alliées sont partis là-bas, ils sont sur le terrain. Et on nous a dit qu'ils sont arrivés sur le lieu et ils sont déployés à la poursuite de ces malfrats-là.
Les conducteurs de mototaxis de Bria ont provisoirement suspendu leurs activités pour exprimer leur mécontentement. Aliou Amidou est l'un d'eux.
C'est vraiment malheureux pour nous, les conducteurs de mototaxis. Les gens ne peuvent pas circuler librement à cause des malfrats qui sont partout dans la brousse. Nos camarades et leurs clients ont été ligotés avant d'être tués et leurs motos incendiées. Nous demandons au gouvernement de renforcer la sécurité, notamment sur ce tronçon.
3 jours de deuil ont été décrétés par les autorités locales dans toute la préfecture. Rolf Steve Domialeux, Bangui, RFI.
Au Mozambique, des scènes de chaos à Maputo, la capitale, pendant de nouvelles manifestations de l'opposition contre la fraude électorale. Les manifestants étaient appelés à bloquer la circulation routière aux heures de pointe. Et ce matin, un véhicule blindé des forces de sécurité a renversé une manifestante, provoquant un véritable embrasement de la situation. Gaël Alex.
La vidéo fait le tour des réseaux sociaux. On y voit un véhicule blindé de l'armée mozambicaine rouler à toute allure sur l'avenue Eduardo Mondlane. Dans une véritable cohue, la foule s'écarte pour l'éviter. Mais une jeune femme placée derrière une barricade n'a pas le temps de s'enfuir. Elle est percutée de plein fouet par le blindé qui poursuit sa route. Ces faits ont été confirmés par les journalistes de l'agence Lusa présents sur place. S'ensuit alors un véritable chaos. La foule en colère s'en prend à la police. Au jet de pierre, les forces de l'ordre répondent par des gaz lacrymogènes. Vers 11h, des tirs à balles réelles sont entendus dans les rues de la capitale. La tension culmine en fin de matinée quand des manifestants tentent d'incendier un blindé de l'unité d'intervention rapide avec des agents à l'intérieur. Pour l'heure, aucun bilan n'a été rendu public. Pour cette nouvelle journée de manifestation, une source à l'hôpital central de Maputo affirme que la jeune femme renversée est désormais hors de danger. Hier, la Commission européenne avait appelé à la retenue, déplorant que la brutalité de la répression ait exacerbé la situation au Mozambique. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
Boualem Sansal a fait appel de sa détention en Algérie. C'est ce qu'annonce son avocat, maître François Zimmeret. L'écrivain franco-algérien placé sous mandat de dépôt à l'unité pénitentiaire d'un hôpital d'Alger a pu voir ses avocats algériens ce mercredi. La chambre d'accusation a maintenant 21 jours pour examiner l'appel, précise l'avocat qui entend défendre son client en veillant, je cite, à écarter autant que possible la dimension politique de l'affaire. Rappelons que Boualem Sansal, très critique du régime algérien, a été arrêté mi-novembre à l'aéroport d'Alger. Son avocat a annoncé son placement en détention en vertu d'un article du code pénal algérien qui réprime les atteintes à la sûreté de l'État. Mais Alger n'a toujours fait aucun commentaire. Vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir. Il est 22h passées de 39 minutes à Bamako et à Conakry. 22h39 également en temps universel. Le ministre français des Affaires étrangères est arrivé au Tchad ce soir. Premier déplacement de Jean-Noël Barrot en Afrique subsaharienne depuis sa prise de fonction en septembre. Et dès ce jeudi matin, il se rendra dans le nord du pays à la frontière avec le Soudan dans un camp de réfugiés, le camp d'Adré, où les Soudanais on fuit les combats. La crise humanitaire au Soudan est une priorité de ce voyage, a répété le chef de la diplomatie française avant de s'envoler. Alexandra Bonjon.
La France n'oublie aucune crise, a répété Jean-Noël Barrot avant son départ. À peine arrivé au Tchad, le ministre se rend dès ce matin à Adré, dans le nord du pays, ville frontalière avec le Soudan. 18 mois de conflit ont déplacé 11 millions de Soudanais, dont 3 millions ont quitté le pays. Le Tchad, à lui seul, accueille plus de 600 000 réfugiés massés le long de la frontière. Il s'agit de la crise humanitaire la plus grave de notre époque, a répété le ministre des Affaires étrangères. Avec 26 millions de personnes souffrant d'insécurité alimentaire, nous devons nous mobiliser. La France a d'ailleurs été au premier plan de l'aide humanitaire avec la conférence des pays donateurs en avril dernier, qui a permis de recueillir 2 milliards d'euros de promesses de dons. Mais depuis, la crise a empiré, l'aide n'arrive pas ou alors au compte-gouttes. Le chef de la diplomatie française se rend sur place, dit-il, pour s'assurer que ses engagements sont pris et, ajoute-t-il, pour appeler les autorités à préserver l'accès aux convois humanitaires pour que cette aide puisse parvenir aux populations concernées.
Jean-Noël Barrot se rendra donc ce jeudi au camp de réfugiés d'Adré à la frontière soudanaise. Ce camp, comme plusieurs autres, abrite de nombreux réfugiés du Soudan et des femmes pour la plupart. Plusieurs d'entre elles ont affirmé avoir été victimes d'abus sexuels de la part des personnels humanitaires de l'ONU et des forces tchadiennes, des rapports sexuels non consentis en échange de soins ou de services. Nadia Ben Mahfoud.
Des relations sexuelles pour survivre, des exploitations sexuelles en échange d'argent et d'accès à l'assistance au sein même des camps ou encore des enfants issus de ces rapports sexuels non consentis. Ce sont les allégations qui pèsent aussi bien sur des humanitaires des Nations Unies que des forces de sécurité tchadiennes. 90% des réfugiés présents dans les camps de l'Est du Tchad sont des enfants et des femmes et plus de la moitié d'entre elles sont arrivées seules. Epiphanie Dioran, présidente de la Ligue tchadienne des droits des femmes, explique que la plupart d'entre elles ont déjà subi des violences, y compris des viols. Son association lance un programme de 6 mois à Adré pour accompagner ces réfugiés. Une clinique juridique, psychologique et médicale doit être mise en place dans les prochaines semaines. Agressions sexuelles, famine, manque d'infrastructures et de services adaptés, le gouvernement tchadien et les organismes présents dans les camps tirent la sonnette d'alarme. Le Haut Commissariat pour les réfugiés n'a reçu que 11% des 214 millions de dollars nécessaires en 2024 pour faire face à la crise. Nadia Ben Mahfoud, N'Djamena, RFI.
Et contacter les autorités tchadiennes n'ont pas répondu à nos sollicitations. Les Nations Unies au Tchad se disent attristées de ces accusations. Elles prônent une politique de zéro tolérance, disent-elles, face à toute exploitation sexuelle et abus. Mais quels sont les mécanismes mis en place pour prendre en charge les potentielles victimes? Qu'adviendra-t-il des humanitaires qui seraient à l'origine de ces agressions? Écoutons Yewand Osarienne Odja, les présidents de l'agence de l'ONU en charge des questions de santé sexuelle.
We have a robust prevention mechanism.
Nous disposons d'un mécanisme de prévention solide. Nous essayons de nous assurer que les bonnes informations sont diffusées dans nos différents camps. Mais nous disposons également de centres intégrés où nous recevons les femmes victimes de violences et où nous les assistons. Nous apportons même un soutien judiciaire afin qu'elles puissent intenter une action en justice contre l'agresseur. Mais à l'heure actuelle, avec les allégations dont nous disposons, nous lançons bien sûr un processus d'enquête. Starting an
investigation process. Donc c'est bien vous qui mettez en place une enquête et une équipe dédiée sur place?
It is
Il s'agit bien sûr des Nations Unies, mais bien sûr, cela dépend de l'acteur concerné. Chaque agence a ses enquêteurs.
Et vous avez identifié les agences en question, les différentes ONG qui sont impliquées ou...
Je ne répondrai pas.
Quelles sont les sanctions qui sont prévues pour les humanitaires à l'origine de ces agressions?
Si l'enquête démontre qu'il y a effectivement eu exploitation et abus sexuels, les sanctions pourraient alors aller de la cessation de service à des mesures même plus graves, en fonction du pays et bien sûr de la gravité de la situation.
Donc c'est un problème qui ne concerne pas uniquement les camps de l'Est du Tchad, puisqu'on peut lire sur le site officiel des Nations Unies, dans un rapport qui date de mars 2024, que vous avez reçu à travers le monde 758 allégations d'exploitation et d'abus sexuels commis par votre personnel l'an dernier, ainsi que par le personnel affilié et celui de partenaire. C'est un phénomène assez généralisé finalement.
Sadly. It is something that we are seeing.
Malheureusement, c'est quelque chose que nous constatons partout dans le monde. Et pas seulement avec le personnel de l'ONU, c'est le cas avec d'autres acteurs humanitaires et des agents de sécurité étatique. Nous devons travailler ensemble, mais aussi travailler avec les communautés locales. Parce que ce sont des gens qui vivent dans des situations très vulnérables. Très souvent, ils n'ont pas le choix. Parfois même, ils souffrent d'une manière qui facilite cette situation et cela ne devrait jamais être une excuse.
Comment vous recrutez vos équipes pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas ce genre d'abus une fois qu'ils sont sur le terrain? Est-ce qu'il y a une manière de les recruter qui va changer peut-être pour prévenir ces problématiques?
Nous avons un processus qui interdit aux personnes accusées d'exploitation sexuelle d'occuper un poste ailleurs.
Yewande Osarien Odia avec Nadia Benmafoud. C'était un jour de présidentiel en Namibie, pays sur lequel règne depuis 34 ans la SWAPO, un scrutin qui s'est donc achevé mais qui pourrait déboucher sur l'alternance. La jeunesse minée par le chômage rejette le bilan du parti au pouvoir et on pourrait donc s'acheminer vers un second tour. En Tanzanie, le principal parti d'opposition, Chadema, dénonce le meurtre de 3 de ses membres et des fraudes. À Tanzanie, ont eu lieu aujourd'hui des élections municipales considérées comme un test avant la prochaine présidentielle.
RFI à Antananarive, 96 FM.
Ma voix compte, c'est le titre d'une expo photo itinérante qui va sillonner Madagascar et même l'océan Indien pendant plusieurs mois. On y découvre une vingtaine de clichés sélectionnés lors d'un concours. Des photos prises par de jeunes talents malgaches et mauriciens. Ces images mettent en lumière la voix des femmes et des jeunes de l'océan Indien, leur rôle essentiel dans l'agriculture, les traditions ou encore dans la vie politique. Et les organisateurs revendiquent l'utilité de la photo pour transmettre des messages. Guilhem Fabry.
En face à face, tendu, c'est ce que le photographe Songanirina Radzaounas a réussi à capter en se postant à la fenêtre de son appartement d'Antananarive, un jour de novembre 2023.
J'ai choisi la photographie d'une fille qui affrontait les forces de l'ordre lors d'une manifestation politique à Madagascar. C'était avant les élections présidentielles. Donc j'ai choisi la photo surtout pour le courage que dégageait la fille. Mais finalement, ma voix compte, c'était l'occasion pour les photographes de montrer leurs œuvres. Surtout qu'aujourd'hui, beaucoup d'artistes qui sont bons, qui font des photographies, qui racontent quelque chose, mais ils n'ont pas l'occasion de partager au public qui pourrait être concerné.
Sur la grande île, la photographie est souvent déconsidérée alors qu'elle a le pouvoir de transmettre un message au plus grand nombre, selon Fitsu Ramananjre, directeur de l'association Sarnao qui organise l'exposition.
La photographie, les gens disent que ce n'est que des passe-temps, quoi. Mais en fait, c'est nécessaire la photographie, puisque à Madagascar, il y a beaucoup de gens qui sont illettrés. La photographie n'est que l'outil de sensibilisation. Et maintenant, il y a beaucoup de jeunes photographes engagés à Madagascar.
Visible à l'Alliance française d'Antananarive jusqu'à samedi, l'exposition Ma voix compte voyagera ensuite à travers Madagascar de Diego Suarez à Tuléar avant de faire escale à La Réunion, à Maurice et aux Comores en 2025. Guillaume Fabry, Antananarive, RFI.
Le football avec la fin ce soir de la 5e journée de la Ligue des Champions parmi les 9 matchs à l'affiche. À noter la victoire de Lille à Bologne 2-1 grâce à un doublé du léopard congolais Moukao. Monaco s'est incliné à domicile face au Benfica à Lisbonne 3-2. Mais le choc de la soirée se déroulait en Angleterre entre Liverpool et le Real Madrid. Bonsoir Eric Mamrut.
Bonsoir Sylvie, bonsoir tout le monde.
Et à l'arrivée, les Blancs n'y ont vu que du rouge.
Oui, le Real Madrid n'y arrive plus en Ligue des Champions. Deuxième défaite consécutive pour le tenant du titre. Il y a trois semaines, la Maison Blanche avait pris l'eau à domicile face au Milan AC, vainqueur 3-1. Cette fois, c'est à Liverpool qu'elle s'est fissurée sous les yeux du tout frais retraité Rafael Nadal. Défaite 2-0 pour son équipe favorite, totalement dépassée par des Reds incandescents en ce moment. Les leaders de la Première Ligue et de la Ligue des Champions ont en effet survolé les débats, multipliant les occasions. Sans réalisme en première période, mais ensuite Alexis McAllister et Cody Gakpo ont trouvé l'ouverture face à un Real Madrid qui aurait pu se relancer à l'heure de jeu si 1-0 Kylian Mbappé n'avait manqué le pénalty de l'égalisation. Maigre consolation pour le Français, encore transparent ce mercredi soir. Mohamed Salah en a lui aussi raté un 10 minutes plus tard. Liverpool engrange donc une 5e victoire consécutive dans cette phase régulière. Pour Madrid, c'est déjà une 3e défaite, en comptant celle encaissée à Lille début octobre. Le vainqueur sortant seulement 24e au classement et dernier barragiste. La crise pointe au Real, même si ses 3 derniers matchs à Bergame face à Salzbourg et à Brest semblent nettement à la portée du recordman de sacre en Ligue des Champions.
Merci Eric Mamrut. Et puis lors de cette soirée, 3 autres joueurs africains ont marqué. Le Guinéen Sékou Guirassy, l'Algérien Rami Ben Sebaïni et enfin le Congolais Silas Katamba. Le sport, on continue avec le foot, toujours première journée de la Coupe de la Confédération de la CAF. Les Ivoiriens de l'ASEC Mimosa, seulement 5e en championnat, se sont rassurés en Coupe africaine hier au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Victoire 2-0 face aux Sénégalais de l'ASEC Jaraf. L'entraîneur des Mimosa, Julien Chevalier, était satisfait de ses joueurs.
Je suis heureux pour les joueurs, c'est une victoire qui permet de bien démarrer la compétition. Elle était attendue, c'est les premiers pas de la phase de poule importante, donc c'est bien, on démarrait à domicile, ça pouvait être piégeux avec un adversaire qui pouvait essayer de venir gratter un point, donc on a su l'emporter, c'est bien. Par contre, c'est beaucoup de travail de répétition sur les séances, je parlais l'autre jour, on se créait beaucoup d'occasions, mais il nous manquait souvent le geste juste. On a amélioré un petit peu nos centres aujourd'hui, ça nous a permis d'être décisifs. C'était les consignes un petit peu sur la préparation du match et puis ces derniers jours, donc c'est bien, ça paye.
Voilà l'entraîneur des Mimous, Julien Chevalier, au micro de Yoann Gourlet. On va parler d'économie. 800 millions de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'électricité. La moitié environ se trouve en Afrique. En cause, le besoin de solutions qui nécessitent de gros investissements. Et en Afrique, des acteurs travaillent à trouver justement des solutions concrètes pour améliorer la situation. C'est le cas par exemple du Nigérian Bimbola Adissa. Il est à la tête de la start-up Beacon Power Services qui vient de réussir une nouvelle levée de fonds. Charlotte Cossé.
Tout le monde voit le problème, mais c'est difficile pour les gens d'imaginer qu'il y a une solution.
À partir de ce constat, Bimbola Adissa a décidé de prendre le taureau par les cornes il y a une quinzaine d'années. Un des problèmes majeurs sur le continent, la déperdition des kilowattheures produits.
Nous savons qu'environ 35% de la production se perd. Nous avons donc créé un système qui permet de savoir où vont ces 35%. En Afrique, la population a augmenté très rapidement et on ne dispose pas d'une bonne carte du schéma urbain ou des adresses. En cas de panne de courant, on ne sait même pas où chercher. Nous avons donc créé une carte très très basique qui montre chaque bâtiment, chaque poteau, chaque transformateur. Ainsi, en cas de panne, vous savez exactement où vous devez vous rendre pour faire la réparation.
Une solution déjà testée avec succès au Nigeria et au Ghana, assure Bimbola Adissa.
Au Ghana, leur taux de perte était d'environ 35%. Nous l'avons réduit à 20% à peu près. En conséquence, les services électriques sont plus performants et donc ils peuvent recouvrer des revenus et réinvestir dans le réseau. S'ils ne sont pas performants, ils ne peuvent pas remplacer leurs équipements et le service finit par se dégrader. Au Ghana, les revenus ont augmenté de près de 70%. Les pertes sur le réseau ont été réduites et l'approvisionnement en électricité est tout simplement plus stable.
Proparco, cette filiale de l'Agence française de développement, a pris des parts dans la dernière levée de fonds de la start-up nigériane. L'électrification est l'une de ses priorités et les besoins sont énormes. Un secteur cependant qui attire peu, confirme Jean-Benoît Duchalard, responsable de l'investissement de Proparco.
C'est difficile pour plein de raisons. La première, c'est que tout ce qui touche à l'énergie requiert généralement beaucoup de capitaux. Donc c'est des sommes très importantes qui doivent être déployées, surtout pour combler un retard. Et les formes sont diverses. Donc c'est tout un écosystème sur lequel il convient d'intervenir de façon cohérente, complémentaire, pour être le plus efficace possible.
Est-ce que c'est un secteur aussi qui est difficilement rentable peut-être ?
Oui, bien évidemment, mais on a également des contre-exemples de projets qui génèrent une certaine profitabilité dans ce secteur-là. La question, c'est certainement celle de l'équilibre financier global des secteurs électriques.
Bimbola Dissa travaille à une nouvelle version de son logiciel pour passer d'un système de simple surveillance à un système de contrôle capable notamment de rediriger à distance les flux électriques.
Et musique encore sur RFI pour notre rendez-vous culture. Et c'est avec vous, Pierre Vallée. Bonsoir, Pierre.
Bonsoir, Sylvie. Bonsoir à tous.
Et vous allez nous parler ce soir d'un poids lourd de la musique africaine.
Oui, l'incontournable Wizkid qui vient de sortir son 6e album, Morayo. Un album très attendu dont la sortie a été annoncée, puis reportée, puis annoncée, puis reportée plusieurs fois, comme ça. Et très attendu aussi parce que Wizkid, c'est 6 700 millions de clics sur Spotify et 19 millions d'abonnés sur Instagram. Et le problème quand on a autant de personnes qui vous suivent sur le réseau, c'est qu'ils s'expriment et ce sont les fans de Wizkid eux-mêmes qui lui ont réclamé un nouvel album.
Et donc, il a répondu à ses fans en sortant ce disque.
Oui, mais il a répondu en postant une vidéo sur laquelle il semble se moquer de Davido, un autre des poids lourds de la musique nigériane. Et c'est ainsi qu'a démarré une guéguerre sur les réseaux à base de vannes et autres punchlines, un peu à l'image des rappeurs américains Drake et Kendrick Lamar, dont la joute verbale a beaucoup fait parler cet été. Côté Nigeria, on ne sait toujours pas lequel de Wizkid ou Davido a été désigné comme le numéro 1, mais entre-temps, le disque de Wizkid est sorti.
Alors la question, c'est est-ce qu'il est réussi ce disque ?
Eh bien oui, il est réussi pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il reprend la formule qui a fait son succès, avec des rythmes accrocheurs et des mélodies afro-pop qui touchent un large public. Ensuite, parce qu'il y a mis beaucoup de sa personne, il se dévoile plus que d'habitude, et d'ailleurs l'album est un hommage à sa défunte mère. Et à noter aussi qu'il a invité plusieurs artistes sur ce disque, comme les chanteurs américains Bren Fayaz et Jasmine Sullivan, la gabonaise Anaïs Cardo ou le rappeur français Tia Cola sur le titre « Après minuit » en français dans le texte qu'on écoute tout de suite.
Way to do me nice, I know, yeah. Say I be calling, I'm calling, cause I know, say your love not gon' find. Many, many girls did my life, but now you with did my side, yeah. Say make you want me, say you know, say nothing loving, say not surely.
Je peux pas me prononcer, ma baby fait comprendre que je peux pas renoncer. T'as fait de moi un boss comme rosé. Je peux pas résister quand tu remplis le rosé. À la quitte, la nuit quand je viens te déranger. T'as les épaules sur lesquelles je peux me reposer. J'ai juste un mélange de nos deux pour foncer. Allons au bout de nos pensées. À la quitte, j'ai dans la tête une mélodie qui dit interdit après minuit. Sans te mentir, je veux m'évader. Mais tu m'as choisi même dans le pire. Dans la tête, une mélodie qui dit interdit après minuit. Tes laissés sont tes habits, c'est moi que t'as choisi, tu l'as pas pire.
Whenever you close to me, you they give me balance, girl.
Et c'est en douceur que se referme cette dernière édition d'Afrique Soir. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe d'Afrique Soir. Quentin Moulin à la réalisation et au mixage ce soir. Merci. Et j'en profite pour faire un petit coucou à Mamadou, Yaya Petel Diallo qui nous écoute à Conakry ou encore à Junior Bokama à Kinshasa. Sans oublier Moussa Ibni Moussa qui lui est à N'Djamena. Merci de votre fidélité et bonne soirée à l'écoute des RFI. Restez à l'écoute. L'info revient dans un peu plus d'une minute.
Give it to me, that's what you need, baby. Je peux pas me prononcer, ma baby fait comprendre que je peux pas renoncer. T'as fait de moi un boss comme rosé. Je peux pas résister quand tu remplis le rosé. À la quitte, la nuit quand je viens te déranger. T'as les épaules sur lesquelles je peux me reposer. J'ai juste un mélange de nos deux pour foncer. Allons au bout de nos pensées. À la quitte, j'ai dans la tête une mélodie qui dit interdit après minuit. Sans te mentir, je vais m'évader. Mais tu m'as
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
les sages-femmes, savoir et compétences au service de la santé des femmes.
Vendredi,
les premiers jours de bébé dans notre émission Questions de femmes.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.